Ce que nous rencontrons dans notre méditation, c'est nous-mêmes. Quelquefois, on essaie d'éviter cette rencontre, mais c'est quand même nous-mêmes que nous rencontrons dans la méditation, même si on se rencontre dans l'évitement. Évidemment, nous nous rencontrons dans toute la richesse de ce qui se passe en nous-mêmes. Il n'y a pas de programme où on pourrait dire aujourd'hui je vais rencontrer ceci, aujourd'hui je vais rencontrer cela. Alors, comme si on pouvait dire à la vie, ben, seulement manifeste ceci aujourd'hui. Donc, ce qui est peut-être la richesse et aussi la difficulté, c'est que lorsque nous nous asseyons tranquillement, les yeux fermés ou même ouverts, eh bien, tout d'un coup, qu'est-ce que surgit en nous? C'est tous les aspects de la vie qui surgissent. Et c'est une bonne chose, ce qui veut dire que la méditation va toucher tous les aspects de nous-mêmes. Il va s'agir de découvrir comment être présent, libre de confusion dans tous les aspects. Nous avons donc déjà vu, en ce qui concerne le corps ou le sensoriel, manière d'être présent au sensoriel, aux sensations corporelles, à l'audition, etc., même au goût et autres. Ce sont des expériences plus franches, plus claires, parce qu'elles sont assez manifestement ce qu'elles sont. Nous avons vu aussi, enfin Patricia a évoqué hier soir le Vedana, donc la coloration affective qui accompagne chaque expérience. C'est aussi quelque chose évidemment qui est là à chaque instant, qui nous habite. Surgissent des expériences qu'on va éprouver, soit comme agréables, comme désagréables ou comme neutres. C'est un aspect de notre vie évidemment fondamental. Immense richesse, si on n'avait pas cette dimension affective, eh bien, la vie serait d'un ennui immense. On ne peut même pas dire ennui, parce que là, l'ennui, c'est un petit peu désagréable. Ce ne serait même pas désagréable, donc ça serait encore pire, je ne sais pas. Mais la troisième sphère d'exploration qui est citée dans le Satipatthana Sutra, ce sutra qui évoque un peu les sphères d'expérience que l'on rencontre. Le Satipatthana Sutra, dans le fond, essaye de résumer toutes les expériences qui peuvent surgir dans la vie, dans différentes sphères, pour qu'on puisse les reconnaître plus simplement. On ne peut pas croire que la vie a quatre sphères d'expérience, évidemment. Mais la troisième sphère d'expérience qui est citée dans ce sutra, c'est ce qui touche la conscience. Alors, conscience, ça englobe évidemment beaucoup de choses, les pensées, l'imaginaire, mais aussi les émotions. Et j'aimerais parler des émotions ce soir, parce que c'est un sujet extrêmement intéressant, et c'est évidemment un sujet aussi extrêmement important. Les émotions jouent un rôle important dans notre vie. C'est une immense richesse de la condition humaine que ces émotions qui surgissent, mais on a quand même l'impression que bien souvent, on ne sait pas vraiment qu'en faire. On les a un petit peu sur les bras, on ne sait pas bien les intégrer, elles restent avec nous comme quelque chose dont on ne sait pas quoi faire ou qui nous encombre ou évidemment qui nous trouble. Donc je vais vous proposer une sorte de cheminement à travers les émotions, essayer de voir qu'est-ce que ça peut être, comment on peut les définir et comment les intégrer dans la pratique. Je vous propose une possibilité, ce n'est pas toutes les possibilités. Quand on parle d'émotion, on se rend compte que c'est un terme qui, finalement, est assez vague la plupart du temps. Et que si on regarde les différents manuels de psychologie, on verra qu'il y a des définitions différentes chez les philosophes également. J'ai pris ici juste la définition du littré, qui me semble assez proche du sens qu'on donne dans la tradition bouddhique. Voilà ce que nous dit le littré. Mouvement moral qui trouble et agite, qui se produit sous l'emprise d'une idée, d'un spectacle, d'une contradiction. Mouvement moral qui trouble et agite. On a bien ce sens de trouble et agité. Et le terme que émotion ici essaie de traduire, c'est le terme pali qui veut dire kilesha. Et kilesha, c'est ce qui trouble l'esprit. Donc, dans ce sens-là, on ne parle pas d'émotion positive. On leur donnerait une autre catégorie, on verra pourquoi. On pourrait parler de, je sais pas, d'états mentaux, par exemple. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est ce côté troublant de l'émotion. Donc l'émotion est un rapport particulier au monde et aux autres, et qui se fonde sur une manière trouble de voir le monde ou de voir les autres. Il y a une confusion dans l'émotion. S'il n'y a pas de confusion, on ne parlera pas d'émotion. Voilà pourquoi la somnolence, la fatigue, on n'ira pas que ce sont des émotions, parce que ce n'est pas une vision trouble du monde. Où je me leurrerais sur le monde si, voilà, je suis un peu somnolent, c'est vrai que les choses apparaissent pas aussi clairement, mais je crois pas que le monde, tout d'un coup, et c'est un peu dissous, je me demande, le monde, il devient un peu flou, je sais pas ce qui se passe. Je crois pas qu'on aurait cette réaction, donc on le prend pas pour une vision objective, ni dans la fatigue et autres, on aurait un manque de tonus, ou à la rigueur, on aurait l'esprit un petit peu moins clair. Mais on pense pas que le monde est devenu moins clair. On se rend bien compte que c'est un état mental qui, voilà, fait que l'esprit fonctionne pas comme il fonctionne habituellement. Mais il n'y a pas une croyance qui est liée à ceci, que le monde a changé. Alors que dans l'émotion, le sens qu'on veut lui donner ici et qui suit donc ce terme Kilesha en pali, c'est qu'il y a une vision confuse du monde. Et chaque émotion a sa propre confusion. Pas toutes les émotions sont confuses de la même manière. Chaque émotion a une manière particulière d'être confuse. Et ça, c'est une immense richesse. Boileau disait, chaque émotion a son propre langage, par son propre langage. D'ailleurs, si on écoute soi-même ou des amis qui sont sous l'emprise d'une émotion, on se rend bien compte que par le langage même, on pourrait, même si c'était des notes sur le téléphone et autres, on se rendrait compte que, tiens, là, il y a de la dépression, là, il y a de la colère, là, il y a ceci et cela, par le langage qui est utilisé. La frustration, de l'impatience, etc. Donc il y a bien dans l'émotion une vision particulière de voir le monde, une vision confuse. Mais qu'on prend pour la réalité, qu'on prend pour quelque chose d'objectif, c'est là qu'est la confusion. Si on reconnaissait que, tiens, c'est une vision particulière que j'ai en ce moment, à ce moment-là, il n'y a pas de confusion, on n'est pas pris part. Donc nous avons des manières d'être au monde multiples. Et ça, c'est moi, ça me fascine toujours. On peut être au monde de mille manières différentes. On n'est pas juste d'une même manière, toujours. On peut être excité, on peut être un petit peu désabusé, on peut être un peu inquiet, beaucoup inquiet. Il y a mille manières d'être au monde qui font la richesse, mais bon, ça fait aussi quelquefois la difficulté. Surtout quand on est pris par, on est sous l'emprise de l'émotion à ce moment-là. Tout le monde sait combien ça peut être évidemment extrêmement douloureux, handicapant que d'être sous l'emprise de l'émotion, soit en soi-même évidemment, les expériences que l'on peut avoir, soit évidemment aussi des gens qui nous entourent, ou pour certaines personnes évidemment des patients. Donc selon le bouddhisme, quelque chose que j'ai déjà répété tellement de fois, ce n'est pas la réalité qui nous conditionne, qui nous enferme. Mais c'est la confusion par rapport à la réalité. Et on peut dire que la confusion est justement, l'émotion est justement cette manière confuse d'avoir un rapport à la réalité. Donc, ce n'est pas une manière fausse philosophiquement, la confusion. C'est vraiment une manière émotionnelle d'être pris dans le monde sous l'emprise de la confusion. Donc, c'est une manière d'être plus qu'une manière de penser. Et ça me semble important. Pendant longtemps, pour moi, c'était une question philosophique. Il fallait voir le monde comme la philosophie bouddhique l'enseignait pour se libérer de la confusion et être libéré. Et dans ce cheminement-là, l'émotion était un obstacle pour voir plus clairement. Alors que l'émotion, c'est justement cette manière, c'est une manière d'être, pas simplement une manière de penser. Même si on verra, il y a une dimension de la pensée. Donc la confusion, c'est plus une manière d'être, ou c'est autant une manière d'être qu'une manière de penser ou de voir. Donc très souvent, nous pensons que l'émotion, c'est ce qui nous empêche de méditer. Si seulement il n'y avait pas cette tristesse, cette impatience, cette colère, cette inquiétude, alors on pourrait commencer à méditer. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Qu'on pourrait commencer à méditer s'il n'y avait pas justement cette confusion. Or, c'est l'inverse, c'est que la méditation, c'est exactement ce qui nous permet d'aborder les émotions de manière claire et de les dépasser. On pourrait dire que toute la méditation est là pour justement pouvoir aborder les émotions. Donc, ce n'est pas un défaut, c'est au contraire, c'est exactement la méditation porte où elle a son plus grand pouvoir quand tout d'un coup, elle aborde les émotions et permet de les clarifier. Maintenant, ce n'est pas si simple que ça. Il n'y a pas l'émotion qui arrive. Ah, voilà, elle est dans la méditation. Ça y est, elle est claire. Non, c'est pas si simple. Évidemment, c'est un cheminement. C'est une exploration d'une immense richesse avec beaucoup de nuances. Vous voyez comment cette image-là qui nous fait croire que l'émotion est un empêchement à la méditation. On est toujours pris dans ce même schéma où on croit que l'enjeu de la méditation, c'est le calme et la tranquillité. Alors, dans ce cas-là, oui, c'est vrai, l'émotion, ça empêche le calme et la tranquillité. Et le calme et la tranquillité est qu'un aspect de la méditation, mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment la liberté, c'est se libérer de l'emprise des émotions. Et quand on s'en libère, parce qu'on a amené une certaine clarté, alors naturellement, il y a calme et tranquillité. Donc chaque fois qu'on croit que quelque chose s'oppose au calme, parce que évidemment c'est chouette le calme dans la méditation, mais chaque fois qu'on croit que quelque chose s'oppose à ceci, à ce moment-là on se trompe d'enjeu. Alors que ce qui vient s'opposer au calme, c'est justement ce dont on a besoin de prendre soin. D'ailleurs, dans la vie du Bouddha, on le voit très clairement. Avant d'atteindre l'éveil, sous l'arbre de la Bodhi, comme on dit, le Bouddha s'assied en méditation. Bon, c'est un peu un condensé, on peut imaginer que c'était plus qu'une seule nuit d'éveil, mais qu'est-ce qu'il rencontre? Ben, il est attaqué par les armées de Mara, les armées de Mara qui sont terrifiantes quand on lit les textes. Mais qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont la haine, la colère, l'arrogance, la luxure. Voilà ce qu'il rencontre sous l'arbre de l'éveil. Qu'est-ce que ça veut dire? Des émotions. Avant d'atteindre l'éveil, il s'assied et tout d'un coup, il y a toutes les émotions qui surgissent. Et le texte, de manière assez imagée, il dit toutes ces émotions, ces flèches que Mara lui lance, donc ces émotions qui le perturbent, il les transforme en fleurs, hein, qui viennent se poser sur sa robe, qui deviennent une décoration. Elles sont intégrées. Et il ne dit pas, il les anéantit, il les fait fuir comme ça, comme un, je sais pas, comme un samouraï qui ferait fuir l'ennemi. Ça n'a rien à voir. Elles sont intégrées puisqu'elles les transforment en fleurs. C'est-à-dire ce côté qui était un côté troublant, douloureux, ça devient au contraire quelque chose qui est de l'ordre d'une parure, d'une décoration. Et là, je crois que ce qui est donné, c'est quelque chose d'important qui est donné, c'est que l'émotion n'est pas quelque chose à détruire, c'est pas un ennemi, c'est quelque chose à intégrer pour que ça devienne une fleur, c'est-à-dire que ça devienne quelque chose qui nous touche profondément, mais qui ne nous trouble pas. Or, on se rend compte très souvent, je crois que c'est un des points difficiles, c'est qu'on traite les émotions comme des choses. Et alors, on veut s'en débarrasser, on croit qu'on peut les éliminer comme on enlève des choses, comme on enlève une épine du pied. On veut se rejeter l'émotion. Même de la traiter en tant qu'ennemi, c'est une aberration. Comment un aspect de soi-même pourrait être un ennemi de soi-même? Or pourtant, très souvent, on a des textes, on lit dans des textes où ça c'est nommé comme des ennemis. Je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse considérer une expérience qui surgit dans la conscience, qu'on puisse la considérer comme un ennemi. Moi, ça me dépasse. Ça doit être ma limitation, mais là, alors, il y a une grande confusion. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse traiter quelque chose comme un ennemi. Il y a dans un sutra, Brahmin vient interroger le Bouddha et lui dit ça doit être quand même difficile pour les moines et les nonnes qui sont là dans la forêt, sur la colline, à méditer toute la nuit, parce que quand même, il y a des moments, ils doivent être pris par la peur. Ben, en Inde, à l'époque du Bouddha, j'imagine qu'il devait y avoir encore beaucoup de bêtes sauvages. Alors, je ne veux pas toutes vous les citer, je prends le. Enfin, on peut imaginer, il y en a encore pas mal, je ne sais pas, des cobras, c'est pas tout à fait voilà, affectueux, même, je ne sais pas. Enfin, il y a des tigres, des lions, etc. Et puis, il y avait aussi des voleurs, il y avait quand même pas mal de dangers. Alors, ce brahmin dit, ben, au Bouddha, ça doit quand même, ça doit faire surgir de la peur quand même. Hein. Le Bouddha dit oui, en effet. C'est vrai que même le bruissement des arbres, en plus, en Inde, on rajoute aussi les esprits, c'est-à-dire les yakshas, les rakshasas. Il y a encore, c'est peuplé de pas mal de démons qui viennent voilà, vous tirer par les pieds. Donc, ça fait quand même pas mal de raisons d'être inquiet ou d'avoir peur. Et le Bouddha, oui, effectivement, c'est vrai. Il dit, je me rappelle, moi, donc avant d'atteindre l'éveil, quand, lorsque je méditais assis et que de la peur a surgi. Je n'ai pas cessé l'assise avant d'avoir pu résoudre ou dissoudre la peur. Lorsque la peur a surgi, lorsque je marchais, je n'ai pas arrêté ma méditation en marchant avant que d'avoir résolu le problème de la peur. Lorsqu'il était couché de la même manière et lorsqu'il était debout de la même manière. Donc, il mentionne bien là que lui-même, dans son parcours, il a aussi rencontré la peur par moment, donc une émotion. Et que il a pris comme une opportunité. Je ne sais pas le terme pali qui est utilisé. Mais pour nous, il s'agit surtout de lui enlever son pouvoir de contrainte, dans le fond, de la transformer en fleur, de l'intégrer complètement. Donc, lorsque les émotions surgissent dans notre méditation, ce n'est pas un problème, un défaut, c'est une opportunité. À nouveau, je voudrais préciser ce que j'ai déjà dit l'autre jour, c'est une opportunité, mais quelquefois, des émotions, si les émotions sont trop fortes par rapport à ma capacité présente, il se peut que je la gère d'une certaine manière, soit en venant dans une zone neutre, en sentant les sensations dans les mains ou sur les genoux. Ou que je change de pratique, je passe à metta, ou même que j'essaie juste d'être dans l'audition, afin de ne pas être submergé par ces émotions si elles sont très fortes. Il y a des moments où il faut gérer ceci, et c'est la manière judicieuse de le faire, ou d'aller faire une promenade. Mais à nouveau, si on va faire une promenade, de l'intégrer dans la retraite. C'est pas je brise la retraite, mais voilà, ma manière de continuer à méditer tranquillement, c'est d'aller faire une promenade, c'est peut-être d'admirer le paysage, d'aller causer au lama, etc. Donc voilà comme manière de gérer si l'émotion semble trop intense par rapport à ma capacité d'y faire face en cet instant. Donc on ne peut pas donner une sorte de manuel uniquement, voilà, dans ce cas-là, vous faites ceci ou cela. Chaque situation a sa particularité. Il pourrait très bien qu'en ce moment-là, j'ai de la difficulté à y faire face. Je fais une promenade à l'assise prochaine, j'ai plus de disponibilité et tout d'un coup, tiens, voilà, c'est pas si dramatique que ça. Ou l'inverse, hein, que je puisse bien la toucher, etc. Puis je reviens après, je suis un peu fatigué, j'ai l'impression que je n'ai pas la sensibilité qui me permet de rester dans un état d'équilibre par rapport à l'émotion. Donc il y a diverses manières de gérer les émotions. On verra, peut-être la dernière, c'est ce qui est plus spécifique au vipassana, mais toutes des manières qui sont quand même extrêmement riches et qu'on utilise d'ailleurs en général. La première manière, c'est de la gérer par la raison. On appelle ça par l'antidote. On pourrait être en colère contre une personne, et puis on se raisonne en essayant de voir le point de vue de l'autre personne, de voir la situation un petit peu de manière un peu plus générale, et tout d'un coup on se rend compte que finalement c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de raison d'être autant en colère parce que prenant un point de vue un peu différent, eh bien la colère est exagérée. On exagère la responsabilité de l'autre personne. Ça, on le fait constamment. Je crois qu'assez spontanément, on essaie de voir un peu différemment, afin de ne plus être dans ce discours qui semble toujours alimenter la colère. Oui, mais c'est dégueulasse, ceci et cela. Donc, au lieu de rester dans ce discours-là, quand on voit un peu différemment, à ce moment-là, la colère peut s'apaiser. Et quelquefois, on se rend compte que c'était une mauvaise appréciation de la situation. On se trouve tout bête avec notre colère alors que la personne était bien intentionnée et qu'on croyait qu'elle était mal intentionnée. Pas rare qu'on se trouve comme ceci. Donc par le raisonnement, on essaie de réfléchir sur la situation. C'est une manière de gérer les émotions, manière à nouveau qu'on pratique. Il y a aussi des manuels qui donnent toutes ces descriptions des antidotes pour faire face à la colère, à la haine, à tout type d'émotions de ce type. Une autre manière qu'on peut avoir aussi, c'est par exemple en se calmant, en revenant à la respiration. On pourrait très bien imaginer, on est irrité, en colère, etc. On revient à la respiration, on se rend compte que ce processus-là nous permet aussi de gérer, de ne pas être submergé par l'émotion, ou de l'impatience et autres, et qu'à ce moment-là, on peut être à nouveau, d'une certaine manière, plus tranquille dans cette situation-là. Mais ces deux manières, soit par l'antidote, soit par la respiration, nous permettent de gérer la situation, mais dans le fond pas de la résoudre. On n'a pas compris ce qu'est l'émotion. On a géré. Et dans le cheminement que nous avons ici, à travers Vipassana, on essaye d'aller plus loin et de comprendre quelle est la nature d'une émotion et d'une certaine manière de, voyons le terme habituel, de les déraciner, c'est-à-dire peut-être de les décrédibiliser. Parce qu'il y a quand même un point important, je crois, c'est si on imagine ici, on est quand même dans un espace assez tranquille, il y a même des petits ballons là-haut. Au plafond, ça fait un petit air de fête, voilà. Et puis tout d'un coup, on s'assied, donc il n'y a pas vraiment de raison de s'agiter, de s'inquiéter. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a de la colère, il y a de l'irritation, il y a de la tristesse, il y a de l'inquiétude, il y a du désespoir. Pourquoi est-ce que ça surgit? Vraiment, je ne sais pas, le lieu, il est quand même assez tranquille, il n'y a pas vraiment de quoi s'agiter. Donc pourquoi est-ce que tout d'un coup on s'assied tranquillement, plein de bonnes intentions, voilà qu'il y a ces émotions qui viennent nous déranger. Pourquoi est-ce qu'elles surgissent? On ne les a pas appelées, on n'a pas dit, voilà, allez, je vais faire le tour de quelques émotions, je vais revenir, etc. Allez, un peu de colère, non, un peu d'angoisse. Non, on est vraiment là. En général, quand même, on se dit, ben voilà, on part pour un truc plutôt tranquille. On essaie de pas avoir de programme, mais quand même, voilà. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que surgissent en nous des expériences difficiles. Donc on peut se dire, pourquoi est-ce qu'elles surgissent? Donc Freud s'était posé cette question parce que lui, il pensait, selon son principe du plaisir, c'était super, c'est que naturellement on aspire vers le plaisir, naturellement on essaye d'éliminer ce qui est désagréable. Et qu'est-ce qu'il trouvait chez ses patients? Enfin, il se couche sur son divan, etc. Et voilà que les choses les plus dramatiques surgissent. Et moi, ça joue quand même pas. Lui, il pensait que pourquoi est-ce qu'ils vont revenir sur les souvenirs difficiles alors que normalement, ce à quoi on aspire, c'est plutôt quelque chose de joyeux. Et il s'est posé cette question jusqu'à la fin de sa vie. Il a écrit ça quand il était à Londres, sur des petits bouts de papier. Il a dit, parce qu'elles n'ont pas été intégrées. Et ça me semble tellement important. Les choses ressurgissent dans la vie parce qu'elles n'ont pas été intégrées. C'est pour ça qu'elles reviennent constamment. Un peu comme quelque chose qui n'a pas été digéré. Et ça revient, c'est comme si l'organisme, je ne sais pas quel terme utiliser, essayait d'intégrer quelque chose pour pouvoir aller au-delà, dans le fond, passer à autre chose. mais elle ne peut pas passer à autre chose tant que ceci n'a pas été résolu, intégré. Donc c'est le terme qu'il utilise, parce qu'ils n'ont pas été intégrés. Donc quand nous nous asseyons dans notre méditation, eh bien il y a des difficultés qui surgissent, c'est justement ces difficultés qui n'ont pas été intégrées. Donc elles ne surgissent pas évidemment que dans la méditation, elles peuvent être là dans notre vie un peu de manière sous-jacente, où elles sont là, elles nous troublent, elles nous empêchent, sans qu'on soit toujours évidemment conscient qu'elles soient là, et tout d'un coup on s'assied, comme il y a peu de distractions, mais ça leur permet de se manifester de manière un peu plus claire. Alors quelquefois, on remarque dans les retraites, de manière assez frappante, c'est que le moindre petit prétexte peut faire surgir une émotion. Mais vraiment un truc anodin, puis on vient s'asseoir, puis quand même, c'est assez fantastique. Ça pourrait être une chose toute simple, une personne qui nous a pas tenu la porte, voilà, je viens, oh, mon vœu, etc. Ouais, je suis toujours, voilà, c'est toujours comme ça pour moi, etc. Mais voilà, parti dans la tristesse, ou bien la personne m'a regardé là-bas, où j'ai senti vraiment une colère, etc. Voilà, on part maintenant dans un autre scénario. Il y a vraiment. Alors que ça n'a rien à voir. Hein. La personne ne vous a peut-être pas vu, elle regardait à travers vous, mais voilà, vous l'avez senti comme un rejet ou comme de l'aversion, etc. Donc, on a l'impression que les petits prétextes, des fois c'est un peu moins, des prétextes un petit peu moins petits. Il y a des réactions quelquefois qui sont un peu grossières ou qui vous semblent exprimer un tout petit peu d'émotion. Mais voilà, nous réagissons. Pourquoi? Parce que dans le fond, ces émotions qui n'ont pas été intégrées, eh bien, elles sont touchées et puis à ce moment-là, elles réapparaissent. Et souvent, ce décalage entre l'événement extrêmement mineur et l'intensité de l'émotion est assez frappant. Ou quelquefois, on accuse la méditation d'être la cause de l'émotion. C'est assez intéressant. Je sais pas, voilà, je suis impatient, irrité parce que la méditation, elle va pas bien. Voilà. Mais voilà, je suis impatient quand on sait que ça va être le calme et autres. Il y a de l'irritation, de l'impatience, comme si c'était la méditation qui gérait de l'impatience alors que tout d'un coup, on touche l'impatience. Et ça, je crois que c'est important de le reconnaître. Autrement, on veut le gérer par la méditation, en disant, moi je vais faire plus de marches, ou je vais faire plus de ceci, alors qu'en fait, justement, on touche quelque chose qui est en nous, impatience, irritation, etc. Donc c'est une opportunité de les intégrer. Maintenant, pour intégrer quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire, intégrer, voilà. Un terme super, voilà, je vais intégrer les émotions. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait pour intégrer les émotions? Ben, pour intégrer quelque chose, enfin, pour que deux choses soient intégrées ou l'une dans une autre, bien, il faut qu'elles soient de nature similaire. On ne peut pas intégrer des choses qui ne sont pas de nature similaire. Vous mettez un bout de plastique dans la salade, bon, ça ne va pas s'intégrer très bien. Voilà, il y a beaucoup d'autres exemples. Donc, il faut qu'il y ait une nature similaire pour qu'une chose puisse s'intégrer. Voilà, je prends un exemple absurde, mais voilà, il me vient comme ça. Mettez une vache dans un défilé militaire, ça ne passe pas très bien, quoi. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui joue pas. Voilà. Au moins, ça, c'est drôle, mais enfin, bon, c'est pas toujours aussi drôle. Mais. Voilà, donc, pour que quelque chose soit intégré, il faut que ça soit de nature similaire. Et tant qu'on voit l'émotion comme un corps étranger, comme un objet, l'émotion est tout autre, on ne peut pas l'intégrer. Donc, la manière qu'on a d'observer une émotion comme si c'était un objet, elle fait qu'il est impossible de l'intégrer. Alors, on est plein de bonnes intentions, on voudrait bien l'intégrer, c'est super, mais déjà, on lui impose une nature qui fait qu'elle n'est pas intégrable. Et à ce moment-là, ça devient difficile. De croire qu'on peut se libérer d'une émotion, c'est-à-dire en l'enlevant, c'est absurde puisque l'émotion est juste un aspect de la conscience. On ne peut pas prendre un aspect de la conscience et l'enlever. On a vu, on peut changer le contexte. Par le raisonnement, par la respiration, on change le contexte. Là, on est d'accord, mais on a juste géré la situation. Et ça, c'est pour toute expérience, tout vécu, dans le fond, quand on les traite comme si c'était des objets et non pas des aspects de la conscience, c'est beaucoup ce qu'on fait dans la méditation quand on observe ce qui se passe. Alors qu'on est ce qui se passe à chaque instant, à ce moment-là, cette distance va faire qu'il est difficile de les voir pour ce qu'elles sont et de les intégrer. Donc de quoi est faite une émotion, si on veut l'explorer, eh bien on se rend compte qu'il y a une sorte de dimension corporelle. Sent bien, quelquefois c'est ce qui paraît d'abord dans la méditation. On sent une sorte de sensation, disons dans la poitrine, et puis tout d'un coup, tiens, c'est un peu brûlant, puis on se rend compte que c'est pas juste brûlant comme si on avait mis, je sais pas, une sorte de produit pour chauffer un petit peu la poitrine, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'autre là. Donc il y a une dimension corporelle, il y a aussi la dimension émotionnelle qui fait que c'est de la tristesse, c'est de l'inquiétude, c'est du désespoir. Et puis il y a aussi une croyance particulière, c'est une vision du monde particulière. La vision de la tristesse ou de la dépression, ce n'est pas la vision qu'a une personne en colère, ce n'est pas la vision qu'a une personne inquiète. Je vais redécrire ceci, même si je le fais chaque fois. C'est vrai qu'une pour une personne dépressive, alors là, à nouveau, je parle d'une manière tout à fait générale. C'est que dans la dépression, il y a aussi des côtés chimiques, etc. Mais parlons d'une manière de tristesse, d'une manière générale. Eh bien, la vision d'une personne triste ou légèrement déprimée du monde, c'est une vision grise, c'est une vision, il n'y a rien à attendre de positif, il n'y a pas de joie à attendre. Le monde est terne. Donc pour se mobiliser pour quelque chose, ça devient difficile. Et quand on essaie de mobiliser une personne triste ou en légère dépression, en général, c'est difficile d'être convaincant parce que la personne a une vision du monde, il n'y a rien à attendre. Alors viens, on va là, c'est super. Bon, non. Bon. Viens, on va là. Oh non, je suis déjà allé la dernière fois. On a l'impression que, voilà, il n'y a pas de répondant. Pourquoi? Parce que la personne voit le monde comme un endroit où il n'y a rien, il n'y a aucun plaisir à attendre. Donc ça, c'est une vision du monde. Et le problème, c'est que la personne prend ceci pour une vision objective. Et ça, si la personne se rend compte, ou au moment où elle se rend compte que, tiens, c'est ma manière de voir en ce moment, en ce moment-là, à ce moment-là, déjà quelque chose peut se briser. Le cercle va pouvoir se briser. Donc, inscription corporelle. On pourrait dire un manque de tonus dans la tristesse ou la dépression, vision du monde comme terne, il n'y a rien à attendre, il n'y a pas de plaisir à pouvoir en tirer. Et la qualité donc émotionnelle de la tristesse. Si on prenait l'inquiétude, je ne vais pas faire l'inventaire de toutes les émotions, mais l'inquiétude, c'est l'inverse. On dirait que à l'inverse d'une sorte d'apathie de la tristesse ou de la dépression, il y a une sorte d'être sur le qui-vive, personne inquiète, comme. Voilà, il pourrait y avoir un danger, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Donc le monde est vu comme étant plein de dangers. Il y a une sorte de mobilisation corporelle, on pourrait dire plutôt une légère agitation du corps. Et cette inquiétude qui fait cette qualité de l'esprit et cette croyance que, il y a des dangers partout. Et là aussi, si on essaie de raisonner la personne, elle va nous donner plein d'exemples qui prouvent qu'il y a du danger. Évidemment, il y a du danger. On ne dit pas qu'il n'y en a jamais ou pas du tout. Mais le problème avec l'inquiétude, c'est qu'elle en voit beaucoup, beaucoup trop, que ça devient une généralisation. Donc, quand Boileau disait, chaque émotion parle son propre langage, on voit là qu'il y a des langages différents. Et quelquefois, c'est intéressant de se poser la question, dans le fond, qu'est-ce que me dit cette émotion? Alors, on va dire, voilà, elle me raconte que ceci, cela, non, mais qu'est-ce qu'elle implique comme vision du monde? Maintenant, je parle de grandes catégories, voilà, tristesse, inquiétude, colère, on pourrait en parler d'autres, mais on est quand même plus complexe que des grandes catégories. Chacun, si on a des personnes inquiètes, chacun a sa manière d'être inquiète, chacun a sa manière d'être triste, chacun a sa manière d'être en colère. Donc, une des manières de comprendre à nouveau, ça ne veut pas dire que c'est la réalité ou la seule, mais ces émotions qui n'ont pas été intégrées, qui peuvent venir de très loin dans l'enfance, plus qu'un souvenir qui ne serait pas intégré, c'est la croyance ou la vision du monde qui a laissé cet événement qui fait partie de la manière d'être au monde. Je vais vous expliquer en donnant un exemple. Voilà, si c'est un exemple, voilà, je ne sais pas, il y a peut-être bidon que j'invente comme ceci, mais si on imagine qu'en étant petit enfant, voilà, j'étais au bord de, je ne sais pas, d'une falaise et autres, et quelqu'un me tenait par la main, soit mon père ou un enfant un peu plus grand, et puis que soit il m'ait fait une farce en faisant comme s'ils allaient me lâcher et autres, ou que j'ai glissé un peu et j'ai eu peur de tomber, pour imaginer que là j'ai eu peur de tomber et que je me suis tendu corporellement. Il y a une sorte de tension corporelle. Voilà, quelques siècles plus tard, je viens méditer. Et puis, qu'est-ce que je rencontre? Voilà, je suis bien, bien disposé, etc. Et tout d'un coup, je me rends compte que dans le corps, je rencontre des tensions. Il y a des tensions. Voilà. Alors j'ai des tensions. Commence à se rendre compte que je me tends, ça veut dire que voilà, qu'est-ce que je fais, etc. Bon, ben, je me tends, je remarque ceci, mais je me tends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me tends? Je ne me tends pas pour rien du tout. Et peut-être que en restant ouvert dans cette expérience-là, je vais remarquer que tiens, je me tends, c'est comme si je me tenais pour pas tomber. Il y a cette angoisse de tomber qui fait que je me tiens, et tout d'un coup, je me rends compte que, ah voilà, j'ai peur de tomber. Donc là, je commence à voir un petit peu l'angoisse qu'il y a derrière ou la peur qu'il y a derrière et le sens que c'est de tomber. Même si j'ai oublié cette histoire de ce moment où j'étais, mais la croyance, elle est restée en moi. Et cette croyance, elle m'agit tous les jours. Pas le souvenir nécessairement, mais la croyance, elle m'agit tous les jours. Tous les jours, je suis tendu avec cette chose qui n'est pas du tout d'ailleurs reconnu avec cette peur de tomber qui fait que je suis tendu corporellement. Alors, c'est pas comme ça, évidemment, ça peut être beaucoup plus subtil. Donc, dans la méditation, qu'est-ce qui va se passer? Je décris ici une possibilité. Je touche ces tensions, je me rends compte que je me tends, puis tout d'un coup, ben, ça demande un peu de sensibilité. Je me rends compte que c'est une manière pour moi d'éviter de tomber. Parce que j'ai peur de tomber, j'ai toute cette peur, cette crainte de tomber. Voilà. Et maintenant, quand je la place dans le présent, je vais tomber où? Vous voyez, tout d'un coup, elle est décrédibilisée, ça ne veut rien dire. J'ai peur de tomber, ça n'a pas de sens dans l'instant présent. Mais n'empêche que ça peut faire des siècles, que ça m'habite et que je suis tendu et que d'une certaine manière, j'ai peur de tomber. Parce qu'il y a cette croyance que je pourrais tomber. Donc, quand dans la méditation ceci surgira, je pourrais regarder par terre et me dire, mais enfin, je ne vais pas tomber. Ça ne va pas suffire. Il va falloir reconnaître cette pensée, cette image peut-être de tomber comme étant uniquement une croyance, étant uniquement une pensée qui surgit. Et si je la reconnais comme pensée, à ce moment-là, ce n'est pas la réalité. Je vais reconnaître que c'est qu'une croyance et pas une réalité. Mais juste de me convaincre que ça ne va pas jouer, de dire, ah ben voilà. Je crois que je vais tomber, mais je ne vais pas tomber, il n'y a pas de sens, je suis déjà par terre. Il faut vraiment reconnaître cette pensée comme juste une pensée, juste une croyance et pas une réalité. Donc voilà un événement, ce que je veux dire, c'est que les émotions, elles sont quand même particulières à chacun, chacune d'entre nous. Ce n'est pas juste la peur en général, la tristesse en général. Donc dans la méditation, on va rencontrer ces particularités. Et pour ceci, il s'agit de rester ouvert dans l'expérience. J'ai parlé ici de la tension que je découvre. Je me tends, je me tends, je me dis, qu'est-ce que ça fait? Je reste là, peut-être pendant pas mal d'assises d'ailleurs, hein, en étant juste dans ça. Puis d'un coup, je me dis, tiens, je me tiens. C'est comme si je me tiens. Mais pourquoi je me tiens comme ça? Ben, je me tiens pour pas tomber. Déjà là, je commence à dire, mais pourquoi? Je me rends compte que j'ai une peur de tomber. Voilà un exemple, ma foi, simple, assez caricatural, mais on pourrait dire que dans la manière que nous avons de toucher les émotions, il y aura toujours une croyance particulière. Vous voyez, ici c'était de tomber, mais dans la méditation, il n'est pas nécessaire de me souvenir de cet événement-là. Ce qui est important de me souvenir, c'est la croyance qui est liée à cette situation émotionnelle. Et cette croyance qui n'est pas une situation présente. Maintenant, il est vrai qu'il faut reconnaître quelle est l'émotion. Là, j'ai découvert la tension, je me tends, etc. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Là, j'ai dit que c'était de la peur. On pourrait avoir de la tension par rapport à autre chose, peut-être. Que de pouvoir mettre le mot juste sur l'émotion, ça permet souvent de la clarifier. On a l'impression que quand on a trouvé le mot juste, c'est que elle est apparue dans suffisamment de clarté. Donc là, il s'agit de pas sauter trop rapidement sur le dictionnaire des mots pour dire, ah, voilà, c'est ça. Parce que quelquefois, on a l'impression que ça apparaît comme être une émotion d'un certain type. On reste ouvert, on se rend compte que c'est un peu une nuance. Je pourrais donner une nuance simple entre irritation et impatience. Et c'est deux choses différentes. L'irritation, voilà, elle est irritée présentement par rapport à une situation. L'impatience, elle attend quelque chose. Il y a une sorte de projection vers le futur. Donc si je dis, tiens, c'est de l'irritation dans mon assise, et que c'est de l'impatience, je vais me rendre compte que je ne suis pas vraiment en contact avec ce qui se passe. Et au moment où tout d'un coup je me dis, ah, dans le fond, c'est de l'impatience, là, j'ai l'impression que ça sonne juste, que le mot, il sonne juste. Mais à ce moment-là, si je trouve le mot juste, je ne vais pas m'attacher juste au mot, je vais dire, ben voilà, c'est de l'impatience. Qu'est-ce que c'est qu'une conscience impatiente? Comment c'est que d'être impatient? Alors, ce qui me semble assez, dans l'impatience, ce qui me semble assez fascinant, c'est d'amener la notion d'évédana, c'est-à-dire agréable, désagréable ou neutre. Parce que l'impatience, c'est désagréable. Mais quand on réalise que c'est désagréable, on la met dans le présent. Or, une impatience au présent, ça lui tord un petit peu le cou parce qu'elle ne sait plus comment être. Donc, lorsqu'on a cette notion d'impatience assez désagréable, vous voyez le mouvement que ça fait, ce mouvement vers l'impatience qui attend quelque chose, c'est désagréable, c'est là. Tout d'un coup, on a l'impression qu'elle est court-circuitée. C'est désagréable, voilà, ben c'est ça. Mais voilà, elle perd ce mouvement qui va vers l'avant qui attend quelque chose. Donc, ceci, évidemment, pour toute émotion, de revenir sur le fait que c'est désagréable. La tristesse, c'est désagréable. Cette notion de désagréable nous permet aussi, puisqu'on parle des émotions difficiles ici, nous permet aussi de la resituer dans le présent. Parce que cette expérience, ce ressenti comme désagréable dans l'émotion, il se situe dans le présent manifestement. Donc ça aide aussi à être plus en contact avec l'émotion elle-même. Dans le Satipatthana Sutra, c'est exprimé de manière simple, un peu succincte, mais lorsqu'un méditant, une méditante a l'esprit troublé par le désir, il sait. Lorsqu'un méditant, une méditante a l'esprit troublé, disons, par la haine ou l'aversion, il sait, elle sait. C'est pas immense comme information. Hein. Mais je pense quand même que là, il y a pas mal d'éléments qu'on peut tirer de cette formulation, c'est qu'il est important de savoir. C'est qu'il est important de savoir qu'on est troublé par ceci ou cela. Et quelquefois dans la méditation, on vient, on s'assied, il y a voilà, un peu de peut-être un peu de mal-être, quelque chose comme ceci. Et soit on veut revenir à la respiration, ce qui n'est pas une faute en soi, mais ça veut dire qu'on ne va pas se donner la possibilité de savoir l'esprit par quoi il est troublé. Par quoi est-ce qu'il est troublé? Ben voilà, l'irritation. Je pourrais très bien venir un matin, irrité par un petit truc qui s'est passé au petit déjeuner ou après, je ne sais pas, je viens et il y a quelque chose, il y a un peu de mal-être, et je dis, bon, je vais revenir à la respiration, mais je n'ai pas pris conscience qu'il y avait cette irritation. L'esprit est très troublé par l'irritation. Donc c'est un des aspects importants. Donc, Si on parle de la tranquillité, du calme, de la joie, etc., ou de la fatigue et de la somnolence, on les mettrait plutôt dans une rubrique qui serait les états mentaux. Parce qu'il n'y a pas ce côté troublant de ce qu'on vient d'évoquer ici. Et je ne pense pas qu'il y a souvent de la joie qui n'ait pas été intégrée, ni du calme qui n'ait pas été intégré, qui resterait comme quelque chose qui n'a pas été digéré, qui viendrait nous troubler. Donc voilà pourquoi dans la méditation, si des choses ressurgissent, c'est plutôt les difficultés, parce qu'elles n'ont pas été intégrées. Maintenant, simplement pour mentionner ces états mentaux, ont des choses positives comme le calme, la tranquillité ou la joie qui peuvent survivre dans la méditation. Et on verra que ce problème de chosifier apparaît aussi, parce que je peux m'attacher au calme, à la tranquillité et à la joie, en faire des sortes d'objets. Et à ce moment-là, je ne suis pas dans une attitude juste qui est plutôt une manière d'être. L'esprit est calme, est tranquille ou joyeux. Et si je m'y attache, c'est que je les ai chosifiés, j'en ai fait des objets. Donc dans ce cas-là, lorsque surgissent ces expériences, il s'agit aussi de se rendre compte combien il peut y avoir de solidification qui donne l'impression que cette expérience de calme, de tranquillité ou de joie existe dans la durée, alors que c'est quelque chose qui est là d'instant en instant. Et ce relâchement qu'il peut y avoir par rapport à l'attachement, ou s'agripper à ceci, à ce moment-là, ne va pas faire partir ni le calme, ni la tranquillité, ni la joie, mais au contraire, leur donner une plus grande dimension. L'attachement limite ceci, le contraint, alors que lorsqu'on se rend compte qu'on s'agrippe à ceci, ça ouvre l'expérience. Il y a joie, tranquillité, calme, et en plus, il y a liberté. Voilà, je crois les points essentiels que je voulais nommer ce soir par rapport aux émotions. Donc, un champ d'exploration extrêmement, extrêmement riche. Et à nouveau, s'il n'y en a pas dans la méditation, ça ne sert à rien d'aller les chercher. Parfois, il n'y a pas d'émotions qui surgissent. On peut explorer d'autres choses. Ça peut être la tranquillité, le calme, ou juste l'agitation, voilà, qui n'est pas déterminée par une émotion particulière. Ou quelquefois l'ennui, on pourrait dire voilà, l'ennui n'est pas nécessairement une émotion si elle ne change pas nécessairement la vision du monde, mais à ce moment-là, il s'agira de rester avec ceci, être en phase avec soit l'ennui, soit une légère agitation, soit le calme, la tranquillité et autres. Donc ne cherchez pas des émotions s'il n'y en a pas, ce n'est pas un défaut. Alors, quelquefois, il y a des gens qui disent bon, je sais pas, ils ont des problèmes les autres avec toutes ces émotions, moi c'est super, j'en ai pas. Puis après, ils disent, mais c'est quand même terrible, moi j'ai pas d'émotion, les autres ont des émotions. Voilà. Donc voilà, on a ce qu'on a dans notre méditation. Et souvent, la méditation est meilleure, voilà, chez le voisin ou la voisine, ça va être plus simple. Hein, voilà. C'est plus simple d'avoir de la somnolence que d'avoir de l'inquiétude. Et puis après, c'est plus simple d'avoir de la colère que d'avoir la somnolence, parce que la somnolence, on voit rien du tout. C'est toujours plus simple les expériences qui sont celles du voisin ou de la voisine. Donc voilà. Il s'agit pour nous d'être en phase avec ce qui se passe. Et cette exploration extrêmement enrichissante, la manière d'intégrer les émotions, c'est vraiment ce qui nous ouvre la porte à la liberté. Et lorsqu'on peut intégrer certaines émotions, quelquefois qui étaient là de longue date, qui ont pu durer depuis des années, lorsqu'on les a repérées pour ce qu'elles sont, décrédibilisées, à ce moment-là, on s'en est libéré. La différence, que si on les gère, elles ressurgissent. On dit, ben voilà, non, non, ça a été, je me suis calmé, etc. Mais enfin, elle ressurgit, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris ce qu'elle était. Et quand on la voit clairement, qu'elle est décrédibilisée, elle ne surgit plus. Bon. Il y en a peut-être une autre qui va surgir, mais celle-ci, elle ne surgit plus. Donc voilà où il y a un potentiel de libération. Et pour moi, cette exploration des émotions, c'est vraiment la grande richesse de la méditation. La grande richesse, parce que c'est une manière de pouvoir intégrer ces choses-là, d'y voir plus clair en soi-même, d'avoir une plus grande liberté, dans un processus qui me semble assez, assez simple et organique. Une remarque que je voulais faire, c'est ce que je cherchais, c'est que quand on parle d'inscription corporelle et de l'émotion, il ne faudrait pas voir le corps et l'esprit comme deux choses complètement déconnectées, parce que voilà, après on a de la peine à les relier, mais c'est le corps et l'esprit sont vraiment reliés, même si l'aspect de l'émotion, ce n'est pas l'aspect corporel, mais ils sont complètement reliés. C'est pas voilà, l'émotion qui vient dire au corps, dis donc, tu devrais te tendre un petit peu. Non, non, c'est vraiment, il faut les voir comme reliés. Dans un des sutras, un moine demande au Bouddha, est-ce que le corps et l'esprit sont la même chose ou ils sont différents? Et le Bouddha refuse de répondre. On ne peut pas dire qu'ils sont la même chose ni qu'ils sont différents. Parce qu'on en a fait deux sortes de choses spécifiques. Et après, alors, si on veut, on dit qu'elles sont la même chose, il y a de la confusion. Si on dit qu'elles sont différentes, il y a de la confusion. Donc sans se prononcer, on reste, nous, dans notre expérience, qui est un corps non pas observé, mais un corps vécu. Voilà donc les quelques points que je voulais préciser ce soir.